Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Biologie de Campbell, 11e édition, est un manuel universitaire généraliste consacré à l'étude du vivant, de ses molécules jusqu'aux écosystèmes, adapté sous la direction de Lisa Uri et de ses co-auteurs. Cette édition française publiée par ERPI associe un vaste exposé des connaissances à une pédagogie orientée vers le raisonnement scientifique. L'ouvrage suit une progression qui relie chimie, biologie cellulaire, génétique, évolution, diversité du vivant, physiologie et écologie. L'évolution y tient le rôle de principe organisateur, elle permet d'interpréter aussi bien l'unité moléculaire des organismes que leur diversité, leurs adaptations et leurs relations de parenté. Sa finalité ne se limite donc pas à transmettre un corpus de notions. Le manuel demande aussi de lire des graphiques, d'évaluer des protocoles, d'interpréter des données et de construire des liens entre chapitres. La version numérique complète cet objectif avec des animations, des ressources visuelles et une anatomie interactive. Par son ampleur et son niveau de structuration, il sert de référence pour des études biologiques exigeantes. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'évolution comme cadre unificateur de l'ensemble des sciences du vivant. Le choix de faire de l'évolution le fil directeur distingue ce manuel d'une simple juxtaposition de chapitres spécialisés. Les structures cellulaires, les mécanismes de l'hérédité. La classification des organismes. Les caractères anatomiques et les interactions écologiques sont présentés comme des phénomènes dont la compréhension gagne à intégrer une histoire commune et des processus de changement des populations. Cette organisation est importante sur le plan intellectuel, elle évite de traiter la diversité biologique comme un catalogue et donne un principe explicatif aux ressemblances comme aux différences entre êtres vivants, les chapitres consacrés aux mécanismes évolutifs. À l'origine des espèces et à l'histoire de la vie fournissent ainsi un cadre auquel se rattachent les parties sur les génomes, la biodiversité et les adaptations. Le lecteur peut comprendre que la sélection naturelle agit sur des variations héréditaires dans des contextes environnementaux précis, sans réduire l'évolution à une formule isolée. Cette perspective aide aussi à distinguer les explications fonctionnelles qui décrivent l'utilité actuelle apparente d'un caractère, des explications évolutives qui interrogent son origine et sa transmission. En reliant les échelles moléculaires, organismiques et écologiques, le manuel donne à l'évolution une fonction méthodologique autant que thématique. Deuxièmement, la démarche scientifique enseignée par l'analyse de données et la conception d'expériences. L'ouvrage accorde une place explicite à la façon dont les connaissances biologiques sont produites, testées et révisées. La démarche scientifique y est abordée à travers la formulation d'hypothèses, la mise au point d'expériences, l'obtention de résultats et leur interprétation. Cet enchaînement est décisif dans un domaine où une observation, même frappante, ne suffit pas à établir un mécanisme causal. Les rubriques consacrées aux habiletés scientifiques invitent notamment à exploiter des données, à les représenter graphiquement et à mobiliser des compétences quantitatives. Elles conduisent le lecteur à examiner des variables, des comparaisons et des limites de protocole plutôt qu'à mémoriser uniquement une conclusion. Les exercices de résolution de problèmes prolongent cette démarche en plaçant l'interprétation des données au centre de situations liées au monde réel. Le manuel traite également les représentations visuelles comme des objets de raisonnement schéma, figures et graphiques doivent être lus avec attention, car ils condensent souvent une relation entre structure, processus et résultat. Cette orientation rend l'apprentissage plus transférable. Elle prépare à comprendre un article scientifique, à évaluer la solidité d'une affirmation biologique et à communiquer une observation de façon intelligible. La biologie apparaît ainsi comme une science empirique, structurée par des preuves discutables et perfectibles. Troisièmement, de la chimie de la vie au processus intégré de la cellule, une part fondamentale du manuel est consacrée au niveau moléculaire et cellulaire, car les phénomènes biologiques reposent sur des transformations de matière, d'énergie et d'information. L'ouvrage aborde la chimie de la vie, puis l'exploration et la structure de la cellule, avant de développer son métabolisme. Cette progression permet de comprendre pourquoi les propriétés des biomolécules, l'organisation des membranes et la compartimentation cellulaire conditionnent les activités du vivant, la respiration cellulaire. La fermentation et la photosynthèse ne sont pas de simples listes de réactions, elles illustrent des stratégies de conversion énergétique adaptées à des ressources et à des conditions différentes. Les chapitres sur la communication cellulaire et le cycle cellulaire ajoutent une dimension de régulation. Une cellule doit recevoir des signaux, coordonner ses réponses, contrôler sa division et maintenir une organisation compatible avec son environnement. Le bénéfice de cette présentation intégrée est de faire apparaître les interdépendances. Une modification de membrane peut affecter les échanges. Une voie métabolique dépend d'enzymes et de gradients. Et un signal peut modifier l'expression de gènes ou la prolifération. les illustrations et les exercices visuels sont particulièrement pertinents à ce niveau, où les objets étudiés sont invisibles à l'œil nu et où la compréhension suppose de passer entre modèles moléculaires, schémas de voie et observations expérimentales. Quatrièmement, génétique, expression des gènes et biotechnologie comme outil de compréhension du vivant. La partie consacrée à la génétique relie les bases chromosomiques de l'hérédité aux mécanismes moléculaires de l'expression et de la régulation des gènes. Cette articulation est nécessaire pour éviter deux contresens fréquents, croire qu'un gène agit isolément ou supposer que la présence d'une séquence détermine mécaniquement tous les caractères observables. Le manuel montre plutôt que l'information héréditaire s'inscrit dans des processus de transmission, de lecture, de régulation et d'interaction avec le contexte cellulaire et environnemental. Les virus sont inclus dans cet ensemble, ce qui permet d'examiner des entités qui mobilisent la machinerie des cellules hôtes et qui éclairent certaines questions de génétique et d'évolution. Les outils génétiques et la biotechnologie prolongent le propos en transformant les connaissances en méthodes d'analyse et de modification du matériel génétique. Leur présence dans un manuel général est utile, car elle met les techniques en relation avec les concepts qui les rendent interprétables. Comprendre un génome ou une méthode de laboratoire demande en effet de savoir ce qui est mesuré, à quelle échelle et quelles conclusions les données autorisent réellement. La présentation des génomes et de leur évolution renforce enfin le lien avec le thème central du livre, les données moléculaires permettent d'étudier parenté. Variation et transformation du vivant sans remplacer à elles seules les autres niveaux d'observation. En dernier lieu, diversité. Physiologie et écologie reliées aux enjeux de la biosphère. Après les fondements cellulaires, génétiques et évolutifs. Le manuel élargit son regard à la diversité des organismes et à leur fonctionnement dans des milieux réels. Bactéries, archées, protistes, végétaux, invertébrés et vertébrés sont étudiés dans une perspective qui associe caractère, parenté et adaptation. Les sections sur l'anatomie et la physiologie végétale et animale montrent ensuite comment les structures assurent des fonctions telles que les échanges, la régulation ou la reproduction. L'inclusion du comportement rappelle que les réponses des organismes ne dépendent pas seulement de leurs organes, mais aussi de mécanismes de perception, de communication et d'interaction. La dernière grande partie, dédiée à l'écologie et à la biosphère, déplace l'analyse vers les populations, les communautés et les flux qui relient les êtres vivants à leur environnement. La démographie, les agents pathogènes, les activités humaines, le climat et la pollution y prennent une place cohérente avec le reste du livre. Ces thèmes ne sont pas présentés comme des préoccupations séparées de la biologie fondamentale, ils mobilisent l'évolution, la génétique, la physiologie et les relations écologiques. Cette continuité donne au lecteur des repères pour comprendre pourquoi les enjeux environnementaux exigent des analyses à plusieurs échelles, allant des mécanismes biologiques individuels aux dynamiques globales de la biosphère. En conclusion, Biologie de Campbell, 11e édition, convient avant tout aux étudiants de licence, aux futurs professionnels des sciences du vivant et aux enseignants qui recherchent un socle vaste, organisé et pédagogiquement exploitable. Son volume important implique une lecture sélective et régulière plutôt qu'une consultation rapide. Mais cette densité devient un avantage lorsqu'il faut consolider un cours, relier plusieurs disciplines ou vérifier le sens précis d'un mécanisme. Les lecteurs y gagnent à la fois un panorama de la biologie contemporaine et des habitudes de travail scientifique, lire une figure, distinguer observation et interprétation, évaluer un protocole et relier des phénomènes situés à des échelles différentes. Les personnes déjà initiées peuvent également l'utiliser comme ouvrage de référence, notamment pour reconnecter génétique, physiologie, évolution et écologie. Par rapport à un manuel plus bref ou spécialisé, il se distingue par l'étendue de son traitement et par son effort systématique de cohérence conceptuelle autour de l'évolution. Par rapport à une encyclopédie descriptive, il privilégie davantage les questions, les données et les compétences d'analyse. Les rubriques de résolution de problèmes, les outils visuels et les sections d'approfondissement renforcent cette orientation. La version numérique ajoute des animations et des ressources anatomiques qui peuvent faciliter l'appropriation de processus dynamiques ou de structures complexes. C'est donc moins un livre de vulgarisation qu'un instrument complet d'apprentissage et de consultation pour une formation biologique structurée. Si vous souhaitez soutenir Lisa Uri, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.